Et alors ce matin, on va poursuivre l'histoire de Jacob. On arrive plus vers la fin la fin de la vie de Jacob, ou plutôt de l'histoire de Jacob. On n'est pas rendu à la fin de sa vie, mais et il y a un fameux épisode qu'il faut que tout le monde connaisse. C'est quand Jacob a eu un match de lutte. Il a combattu avec Dieu Excusez-moi, j'ai un petit problème ici pour trouver. OK, c'est bon. Jacob, durant une nuit où il était dans la nature, on peut dire, il a combattu avec Dieu. Il a lutté avec quelqu'un. On va voir c'est qui. On a chanté tantôt que Dieu aime les humains. Il nous aime. Il t'aime. Et c'est pour ça qu'il initie des rencontres qui nous transforment. Avec toutes sortes de personnes dans le monde, des personnes perdues, des personnes souffrantes. Il veut les amener à lui. Il veut qu'ils sachent qu'il les aime et qu'il a un plan pour leur vie. Puis c'est souvent des moments où la personne est dépaysée, vulnérable, et pour ces raisons-là, ouverte à entendre Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à nous dire? C'est vraiment toujours différent de ce qu'on connaît par nous-mêmes. C'est inconfortable, c'est souffrant, mais c'est efficace, puis c'est toujours bon. Je me souviens, on parlait de moments importants dans notre vie où on s'est tourné vers Dieu. Dans un cours que j'enseignais à la faculté de théologie, et les étudiantes s'exprimaient et il y avait une étudiante qui faisait du camping sauvage. Elle dit, une fois j'étais en camping sauvage, ça veut dire, tu pars, et souvent c'est en groupe, avec un sac à dos plein de nourriture et des choses comme ça, une tente, et évidemment, au Québec, on aime partir en canot, donc c'est les bateaux que tu peux transporter sur tes épaules. Elle s'est réveillée dans sa tente durant la nuit et il y avait du bruit autour de sa tente. Elle a entendu que c'était des loups qui fouinaient, qui cherchaient autour des tentes. Tout le monde était endormi, sauf elle. Elle a eu vraiment peur. Et elle a dit, c'est là que le Seigneur m'a parlé. Il est venu me dire que tout allait être correct et que je pouvais me confier en lui. Et la meute de loups est partie. Voilà une histoire que j'ai entendue récemment. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Et voilà quelqu'un qui était saisi, transformé par l'amour de Dieu. Mais dans un moment comme ça, un moment de vulnérabilité. Et c'est un peu ce qu'on va voir dans cette histoire avec Jacob. Dans Genèse 32, à partir du verset 22. Et comme c'est un texte vraiment difficile, ben, je vais même vous donner la parole un peu plus tard, si vous avez des observations à faire ou des expériences à raconter. Alors, prions, puis on va lire le texte. Jésus, ouvre mes oreilles spirituelles, éclaire mes yeux, les yeux de mon âme. Je veux te voir aujourd'hui. Je veux t'entendre. Merci de nous guider par ta sainte parole. Au nom de Christ. Amen. Le contexte, vous allez voir dans le texte, c'est Genèse 32 à partir du verset 22. Bien, ça commence par le cadeau. En fait, voilà ce qui se passe. On a sauté quelques chapitres. Jacob se retrouve chez son oncle Laban, qui est un exploiteur. Jacob va passer 14 ans, plus 6, 20 ans, le serviteur de Laban. Mais miraculeusement, il devient riche. Il négocie une entente avec Laban et il développe ses propres troupeaux. Et finalement, ses troupeaux à lui deviennent même plus grands que les troupeaux de son boss propriétaire. Il finit par marier les deux filles de Laban. À l'époque, la polygamie était possible. Mais c'est sûr que Dieu va bientôt, dans sa loi, dire que... Non, je ne peux pas dire que c'est dans sa loi de l'Ancien Testament, mais peu à peu, Dieu va révéler qu'un homme, une femme. Mais à cette époque-là, voilà, Jacob avait deux femmes, 12 enfants, et à un moment donné, il s'enfuit avec toute sa richesse. Dieu l'a vraiment béni. Et là, il doit retourner vers sa famille. Mais son frère, qui s'appelle Ésaü, il faut qu'il fasse la paix avec Ésaü. Et Ésaü voulait le tuer. C'est pour ça qu'il a fui vers chez son oncle. Donc, Jacob a préparé un cadeau. En fait, il est en chemin. Et ce cadeau-là, c'est des troupeaux. Un troupeau de brebis, un troupeau de vaches, des gros cadeaux. C'est comme un cortège de cadeaux qu'il envoie en avant avec ses serviteurs pour apaiser le cœur de son frère qui était vraiment fâché contre lui. Vous vous souvenez de cette histoire? Il a volé la bénédiction paternelle de son père. Et donc, voilà un peu le contexte. Donc, je commence la lecture. Le cadeau passa devant lui, et il, c'est Jacob, hein, et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants. En fait, il y en a 12, mais il a 11 fils qui vont être les chefs des tribus. Il part avec ses... Il les prit et il passa le gué du Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Et Jacob lui répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Et l'homme lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda, « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Il boitait de la hanche. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, parce que Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Amen. Alors moi, je voudrais parler du contexte. D'abord, et faire quelques observations, puis ensuite vous écouter aussi. Comme j'ai dit, Jacob a fui Peniel et il fuit Haran. Et je pense que j'ai une carte ici. Voilà, vous voyez, on avait déjà vu cette carte que il est monté jusqu'à chez son oncle à Haran et il a dû fuir avec tout ce qu'il avait. Et en fait, il y a eu une première rencontre avec Dieu à Bethel. En allant là-bas, Dieu voulait préparer son cœur, commencer à changer son caractère, commencer à faire de lui un homme de prière. C'était juste le début. Dans cet endroit qui s'appelle Bethel, vous vous souvenez de cette vision qu'il a eue dans son rêve d'une espèce d'échelle, escalier, puis les anges qui montaient et descendaient. Est-ce que vous vous en souvenez? Et il a vraiment compris que Dieu est venu le visiter. Et ça l'a beaucoup fortifié et équipé pour un temps vraiment difficile à Haran pendant 20 ans avec son oncle. Et là, il s'enfuit et en fait, ce qu'il doit faire, je crois que j'ai des flèches quelque part là. Non? Ça ne marche pas. Bon, ce n'est pas grave. Est-ce que j'ai un laser ici? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ah oui, 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 oui. OK. C'est allumé? Non, ce n'est pas grave. OK. De toute façon, il était là? Je ne le vois pas. Ah oui, mais c'est dur à voir, je pense. Hein? Bon. Ah oui, je comprends le problème. OK. Non, j'avais fait des flèches qui n'apparaissent pas. Mais de toute façon, il revient, il doit négocier une paix avec Haran, et Dieu intervient, se révèle à Jacob, se révèle à son oncle, et ils font la paix dans la crainte de Dieu. Donc, premier problème réglé. Mais là, Jacob doit se tourner vers, là, il faut que j'aille faire la paix avec mon frère qui veut me tuer. Et c'est que, et il veut retourner dans la terre promise, puis Ésaü, son frère, habite là, ou tout au moins juste à côté. Et il est devenu un homme, lui aussi, très riche, très puissant. Et il sait aussi, Jacob sait aussi, ce que j'ai fait, ce n'est pas correct. Même si Dieu était derrière, Dieu voulait que moi je sois le patriarche d'Israël, mais j'ai quand même blessé mon frère et il faut que j'aille faire la paix avec lui. Donc, il envoie ce cadeau et il y a cette deuxième rencontre qui est à Peniel. Donc, c'est à peu près au même niveau que Bethel, mais un peu plus vers l'est. Pourquoi? Parce que Ésaü avait déménagé dans une partie du monde un peu plus vers l'est. Bon, j'aimerais ça vous le montrer, mais je n'ai pas de baguette. En tout cas, c'est plus du côté droit là, de la carte. Jacob descend. Et Dieu lui donne une deuxième rencontre, comme je disais. Et il le prépare pour un autre conflit qui est encore plus épeurant pour Jacob. Et finalement, avec ces deux paix-là, avec Jacob... son oncle Laban, qui va être le patriarche des Araméens, et ensuite Ésaü, qui va être qui va fonder le peuple qu'on appelle Édom, ça va créer une paix pour le peuple d'Israël, dont Jacob va être le patriarche. Dieu, maintenant, initie une rencontre, comme j'ai dit, avec Jacob, une rencontre transformatrice. Et on a vu à Bethel, on a vu à Péniel, Dieu prend un moment propice par rapport à l'ouverture du cœur de Jacob. Il est seul, il est dans la nature, il a peur. Et on peut se poser la question, qui est la cause de ces circonstances? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que ce n'est pas un peu Jacob lui-même? Parce que Jacob envoie tout le monde devant lui et on sait qu'il a peur parce qu'il va prier avant de se coucher. « Seigneur, délivre-moi de mon frère Ésaü car j'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe sans épargner ni la mère ni les enfants. » Puis après ça, il envoie tout le monde devant lui et il dort seul au bord de la rivière. Et on peut se demander, peut-être qu'il voulait rencontrer Dieu. C'est bizarre. Mais je pense que ça nous montre une leçon que, oui, Dieu, il va venir te voir dans un moment que lui choisit, mais toi aussi, tu peux choisir des moments et tu devrais peut-être rechercher des moments pour être seul avec Dieu. C'est un petit peu une des raisons pourquoi on fait des retraites dans l'Église et il y a aussi des retraites organisées par des organismes chrétiens. Je sais que Jean-Paul et Salah, vous partez dans une retraite, je crois, ce soir ou aujourd'hui. Et c'est dans la nature. Et une des raisons qu'on part dans la nature comme ça, c'est pour rencontrer Dieu. C'est propice pour sortir de notre train-train. Et donc, profitez de ces occasions quand on vous invite dans les retraites, retraites d'hommes, retraites de jeunesse, retraites de femmes, pour dire oui. Et souvent, dans ces retraites-là, il est planifié des moments où tu peux aller dans la forêt, prier, être seul avec Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il est bon aussi de faire des retraites seules. Moi, ça m'arrive des fois et ça m'aide beaucoup de dire, OK, je vais partir dans un centre de retraite ou dans un chalet d'un ami ou dans la maison de quelqu'un qui, je sais, est vide et je vais aller prier là-bas. Je sais qu'une fois, une sœur de l'Église nous a appelés, a dit, est-ce qu'il y a un jour où les deux bannis ne sont pas dans leur maison? J'aimerais ça avoir un endroit pour aller prier, où je vais être loin de ma famille, loin de mes enfants. J'ai dit oui, il y a telle date. Puis cette sœur, elle est venue, elle a passé la journée en prière dans notre maison. Je trouve ça très intelligent. Et donc, oui, Dieu va venir nous chercher dans un moment où on est seul, ou tout au moins où on est ouvert, mais nous aussi, il faut rechercher ces moments. L'autre chose qu'on voit, c'est que Dieu se déguise dans cette histoire, dans ce qui fait peur à Jacob, pour ensuite se révéler comme plus grand. Je vais expliquer ce que je veux dire, je vais répéter ça. Dieu se déguise dans ce qui fait peur à Jacob, pour ensuite se révéler comme plus grand que ce qui lui fait peur. Hein? Il a peur de son frère, il a même peur que durant la nuit, son frère va venir l'attaquer. Dieu vient à lui un peu comme s'il était Ésaü. Il l'attaque pour se battre avec lui. Mais Jacob se rend compte, c'est pas Ésaü, c'est Dieu qui est venu. Et c'est pas de mon frère, au fond, dont je devrais avoir le plus peur. Mais c'est mon Dieu que je dois craindre. Dieu est plus grand que mon frère qui veut me tuer. Je dois me confier en lui. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant J'ai revu cet été un film qui est très profond, qui s'appelle Le Shack, qui est sur Netflix. Bon, il est en anglais, ce film, mais le roman, Le Shack, vous pouvez le trouver en français. Et c'est l'histoire d'un homme qui vit un drame dans sa famille. Et le drame s'est passé dans une cabane dans la forêt. Et il reçoit une lettre. Une lettre signée que ça vient du Père Céleste, qui lui dit « Viens me rencontrer dans la cabane ». C'est assez bizarre, mais c'est intéressant que Dieu peut nous ramener là où on a vécu à quelque chose dont on a le plus peur pour ensuite se révéler à nous comme celui qui est plus grand que ce qui me fait peur, que ce qui te fait peur. Et c'est ce qui arrive à Jacob ici. Oui. Oui, et c'est juste, on ne sait pas comment, mais c'est juste la manière qu'il parle après coup. Il va dire, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauve. Tu comprends? Donc, il constate après coup, c'était Dieu. Oui, oui. Oui. Tout ce qu'on sait, c'est que durant ce combat qui a duré plusieurs heures, il s'est rendu compte. Ce n'est pas un homme. Est-ce que c'est un ange? Est-ce que ce n'est pas un ange? Bien, la manière qu'il parle de cette personne, c'est Dieu. Il faisait noir, il ne voit pas, mais c'est dans son âme qu'il a compris. Dieu est venu à ma rencontre. Je vous ai dit, ce texte est mystérieux. Maintenant, j'aimerais juste mentionner que dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs moments où Dieu prend l'initiative de venir parler à des humains. Et c'est très pas clair. Est-ce que c'est un ange? Est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est Dieu? Parce que la manière que l'histoire est racontée, on parle du personnage, puis des fois on va dire l'ange, après ça l'ange de l'Éternel, après ça l'homme, après ça Dieu. Relisez l'histoire du chêne de Mambré, les trois hommes qui sont venus rencontrer Abraham, puis c'est comme, mais la personne qui écrit l'histoire, bien décidez-vous, c'est qui? Mais tout ça, ça a préparé le peuple de Dieu à comprendre que le seul Dieu, Yahvé, le Créateur, a cette capacité de prendre une forme humaine pour venir rencontrer les humains à leur niveau. Et ça, je ne sais pas si ça vous fait penser à quelqu'un. À Jésus, oui. Jésus qui est cette incarnation de Dieu en forme humaine, mais qui est permanente, parce que, on va dire, l'homme qui est venu se battre avec Jacob, il disparaît après le combat ici. Jésus, il est là pour rester. Et Jésus, il est auprès du Père maintenant. Il est Dieu fait homme pour toujours. Et donc, ça, c'est un côté très profond de ce qui se passe ici. Et ça explique l'ambiguïté du langage. Mais je voudrais ajouter quand même, Dieu, dans cette rencontre, il y a un combat. Et je voudrais que tu penses à toi-même ici aussi. Jacob nous représente. Puis le combat, c'est comme ma volonté contre ta volonté, Seigneur. Et puis Dieu, c'est aussi la même chose. Marc, il y a ma volonté, puis il y a ta volonté, puis il faut qu'on, si tu veux vraiment une relation avec moi, il faut qu'on règle cette question-là. Jacob est un genre de bagarreur. Je parlais avec quelqu'un l'autre jour, hier, je parlais de Jacob. Il dit, mais toi, tu dis que Jacob, c'est un lutteur, un bagarreur, mais moi, j'avais toujours compris que c'était un fils à maman, parce qu'il était le préféré de sa mère, il aimait cuisiner. Jacob avait des aspects que dans notre culture, on considère plus féminins. Tout ça, c'est relatif, là, mais il aimait cuisiner. Et puis, il avait une très bonne relation avec sa mère. Et alors que son grand frère, lui, aimait la chasse. Mais on a vu l'autre fois que quand il essayait d'impressionner Rachel, vous vous souvenez, et on a vu qu'il avait une très grande force physique. Hein? Il a déplacé la pierre du puits tout seul. Alors, il a les deux côtés. Puis, en fait, c'est un peu vrai que c'est vrai que l'homme nous a créés hommes et femmes, mâles et femelles, mais chaque femme n'est pas pareille à toutes les autres femmes. Chaque homme n'est pas pareil à tous les autres hommes. On a tous des caractéristiques différentes et Dieu nous a créés très diversifiés. Et Jacob, ici, a un côté bagarreur, lutteur, parce que en sortant du ventre de sa mère, sa main était accrochée au pied ou à la cheville de son grand frère. C'était des jumeaux. Et donc, on l'a appelé Jacob, le saisisseur. Hein? Et je pense que c'est un peu dans sa personnalité de se bagarrer pour avoir qu'est-ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il a fait ces choses terribles à son frère. Même avec Laban, si vous lisez, vous voyez qu'il est très bon pour négocier, puis finalement, il devient très riche. Mais donc, sa manière d'être avec Dieu dans cette nuit-là, c'est qu'il se bat, ma volonté contre la tienne, Seigneur. Et il n'est pas rendu à ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné. Est-ce que vous vous souvenez d'une nuit où Jésus a lutté avec son Père dans la prière, juste avant sa mort? Est-ce que vous vous souvenez de la parole qu'il a dit en prière, dans le jardin de Gethsémané? Oui, c'est ça. Pas ma volonté, mais la tienne. Hein? Pour être plus précis, Marc 14, 36, Jésus a prié ceci. « Père, toutes choses te sont possibles, ce que je te demande, éloigne de moi cette coupe, que je ne meure pas demain. Éloigne de moi la souffrance qui est prévue. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » Donc, voilà où Dieu veut nous amener. Voilà où Dieu veut amener Jacob. Il n'est pas rendu là encore. Il se bat. Il dit, j'ai besoin d'une bénédiction, d'une protection, parce que je m'en vais voir mon frère. Dieu, je me bats avec toi pour l'avoir. Dieu fait quelque chose ici. Il lui inflige une blessure que beaucoup d'interprètes disent, c'est là que tout change dans le combat. Dieu le frappe à la hanche. On pense que en tout cas, les Juifs orthodoxes qui ne mangent pas le tendon de la hanche, en fait, c'est le nerf sciatique, apparemment, qu'ils ne mangent pas et qui est important dans la hanche. Mais en tout cas, Dieu frappe Jacob, il devient un blessé, quelqu'un qui boite, et il va continuer sa vie chrétienne à partir de ce moment-là dans le combat comme un enfant de Dieu qui dépend de Dieu et qui boite. Mais en fait, il est plus fort qu'avant, pas physiquement, mais spirituellement. Dieu va le nommer Israël. À ce moment-là, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Donc, Dieu est en train de changer son caractère tout en préservant sa personnalité. C'est un lutteur, il va continuer à lutter. Peut-être que sa capacité ou sa propension à lutter, ça va devenir bon au lieu de verser dans le mauvais. Il va être dépendant sur Dieu. Et je pense que c'est important de voir que, tu sais, Dieu t'a créé d'une certaine manière, tu as une personnalité unique, et puis peut-être tu as peur de donner ta vie complètement à Jésus. Puis je dis, bien, je vais perdre mon originalité. Mais non, Dieu veut prendre ta personnalité, tout ce qu'il y a d'unique et de ce que toi t'aimes de toi-même, mais c'est ton caractère qui va changer. D'un caractère de volonté indépendante par rapport à Dieu, Dieu veut te rendre dépendant sur lui, soumis à lui. Et puis, les aspects de ta personnalité qui sont belles, il les préserve et les rend meilleurs. Mais moi, j'aimerais vous donner l'occasion de dire des commentaires. Est-ce qu'il y a des... on a dit que Dieu, premièrement, initie des rencontres avec nous et il cherche à briser notre volonté indépendante. C'est ce qu'il fait avec Jacob ici. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous observez dans ce texte ou qui vous frappent, que vous aimeriez mentionner? Ça peut être des questions, oui. Oui. Oui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça veut dire que Jacob, son nouveau nom que Dieu lui donne, c'est « Tu as lutté avec... » Attendez, comment est-ce que c'est dit exactement? « Tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » On dit, est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est une critique que Dieu lui donne? Ou est-ce que c'est un nom plutôt qui détermine sa nouvelle vie avec Dieu? Mais c'est ça. C'est lutter avec Dieu et avec les hommes victorieusement. Oui. Oui. Tout à fait. Oui. Oui. Alors ça, c'est un indice, c'est que normalement, quand Dieu donne un nouveau nom, c'est ta nouvelle mission. Donc, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Est-ce que dans un sens, on peut dire que suivre Dieu, c'est une lutte avec les hommes, une lutte avec Dieu? Oui, une lutte avec soi-même, oui. Oui.
Jacob a reçu. Alors aujourd'hui, je te fais passer à une autre dimension. Le nom que je te donne, je change.
Oui. Oui, c'est un peu ça, hein. C'est très difficile à formuler, mais moi j'aime beaucoup ça. Je pense quand même que là où on veut en venir, là où Dieu veut nous amener, c'est son triomphe dans notre cœur. Son triomphe, de dire que maintenant je règne sur le cœur de, j'oublie votre prénom, Massa, de Sandrine. Je triomphe sur le cœur d'Andrew, de Shadan, etc. Mais il y a tout un historique de combat et ou peut-être tu as lutté, tu as résisté, mais moi j'ai vaincu et j'ai laissé mon estampe sur toi. Je pense que c'est un peu ça. J'avoue que c'est difficile à comprendre. C'est un des textes les plus mystérieux et puis Dieu, c'est comme s'il se met à notre niveau. Il sait qu'on a une volonté qui va toujours lutter avec la sienne. Mais s'il nous a choisis, c'est parce qu'il veut, il a accepté de nous accompagner là-dedans. Oui, Kai. Oui.
Les hommes qu'il a lutté avec, c'est sa
famille. Oui. Oui.
On voit qu'il a lutté avec eux. Il avait avant.
Un saisisseur, un voleur, oui, oui.
C'était son ancien identité.
Oui.
Mais au nouveau, il a la réconciliation avec les deux.
Oui. Oui. Oui, parce qu'en fait, c'est ça. Il va quitter ce combat avec Dieu et il va rencontrer son frère et il va y avoir une belle réconciliation, vraiment une vraie paix qui va s'installer, qui va s'établir entre lui et Ésaü. C'est très beau. Ça s'en vient. C'est un peu la prochaine partie de l'histoire. Donc, tu as été vainqueur. Cette deuxième partie de son nom, peut-être que ça se réfère à ces réconciliations. C'est ça la victoire. C'est ça la victoire. C'est pas, il n'a pas écrasé Aaron et il n'a pas écrasé Ésaü, non. Il s'est réconcilié. Intéressant. Oui, Emmanuel. Oui. 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 Merci beaucoup. Oui, oui, merci. Parfois, dans ce combat, c'est qu'on on reçoit la réponse à notre prière, dans ce combat de prière, en comprenant quelle est la volonté de Dieu, parce qu'il nous révèle. Un peu comme Paul, je prends cet exemple dont il nous parle dans 2 Corinthiens 7. Il dit, Seigneur, enlève de moi cette écharde, cette blessure physique. Ça, ce qui se passe avec Paul, c'est un peu comme Jacob. Il y a quelque chose dans mon corps qui m'empêche de faire mon ministère comme je veux. Enlève de moi cette écharde. Et Dieu lui dit, non, je vais te rendre fort en la laissant là, cette écharde. Mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Et là, Paul a vraiment compris, voilà, c'est ça la réponse à mon combat dans la prière. Alors, voilà, il n'y a pas de réponse simple aujourd'hui. C'est un texte mystérieux et ça fait des milliers d'années que les enfants, les Juifs et les chrétiens se demandent qu'est-ce que ça veut dire. Alors, mais au moins, on a lutté avec le texte aujourd'hui. Et voilà, le résumé de tout ça. Ma sœur, mon frère, Dieu te connaît et comme Jacob, Dieu t'aime en profondeur, Dieu t'aime. Si tu es ici, c'est qu'il t'appelle à lui. Il veut te rencontrer, briser ta volonté indépendante, t'inviter dans son projet. Il veut donner un nouveau caractère, un nouveau caractère pour orienter d'une manière nouvelle ta personnalité unique. Ma sœur, tu as une personnalité unique dont Dieu est le Créateur, mais il veut que ta volonté soit soumise à la sienne. Je crois que c'est le temps de prier ensemble et de nous en remettre à ce Dieu qui nous aime. Prions. Merci Seigneur pour Jacob. Et merci que tu as permis que des personnes écrivent cette histoire pour nous enseigner à nous. Nous qui, plus de 3000 ans plus tard, nous sommes des appelés, nous aussi, des choisis pour continuer ton plan dans ces temps que tu dis sont les derniers, les temps où nous témoignons de Christ, Christ qui est le salut de tout être humain, homme, femme et enfant. Et nous voulons être éduqués, nous voulons être prêts, comme Jacob l'a été, pour sa tâche à lui. Nous voulons que tu nous transformes pour notre rôle, pour mon rôle à moi. Transforme mon caractère, Seigneur. J'ai besoin de toi dans les défis que je vis maintenant. Ô Père, merci. Merci, Seigneur. Ce que j'ai à apprendre, je ne peux pas le causer moi-même. Je peux venir à l'église pour écouter. Je peux lire ta parole, je peux prier et je vais le faire. Mais j'ai vraiment besoin que toi, dans ta miséricorde, tu me fasses comprendre. Alors aide-moi, Seigneur, je prie au nom de Christ.